Radio Barque, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Radio Barque, c'est aujourd'hui le 28e de notre 9e saison. Nous recevons Corinne Sanchez, archéologue. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour madame. Alors on va revenir en détail alors sur ce que vous faites, sur beaucoup de choses pendant ces trois parties de ce Radio Barque. Mais auparavant, disons professionnellement aujourd'hui, vous travaillez pour le CNRS, donc le Centre National de la Recherche Scientifique, en tant qu'archéologue. Alors première partie, essayez de nous expliquer un peu comment tout ceci, administrativement et professionnellement, fonctionne.
Très bien. Alors, je suis effectivement directrice de recherche au CNRS et je fais partie d'un laboratoire, ce qu'on appelle aujourd'hui les unités mixtes de recherche, UMR. Et dans ces unités mixtes de recherche sont associés à la fois les agents du CNRS, mais aussi les universitaires, maîtres de conférences et professeurs, et le ministère de la Culture, qui contrôle tout ce qui est justement archéologie et fouilles archéologiques.
Le CNRS lui-même dépend du ministère de la Culture.
Non, de la Recherche.
De la Recherche.
Voilà. Ah, mais les fouilles archéologiques sont toujours contrôlées par le ministère de la Culture. Et ce qu'on appelle les services archéologiques, les services régionaux de l'archéologie.
Oui, oui, parce qu'il y a une sorte de décentralisation également et des services régionaux.
Voilà, donc dans les DRAC, les directions régionales des affaires culturelles, à l'intérieur des DRAC, vous avez ceux qui font de l'archéologie et qui sont les services régionaux de l'archéologie et qui ont le contrôle scientifique et technique sur les chantiers, que ce soit les chantiers d'archéologie préventive ou programmée. Puisque aujourd'hui, on a effectivement ces deux systèmes. L'archéologie programmée, c'est effectivement ce que je fais actuellement, c'est qu'en tant qu'agent CNRS, je monte des programmes de recherche, je prévois des recherches justement sur les ports antiques, et donc c'est moi qui propose effectivement les lieux de fouilles et le programme qui va permettre de retrouver ces anciens ports.
Oui. Alors, petite parenthèse, on reviendra en détail sur la façon dont on peut programmer quelque chose.
D'accord,
mais continuez
fait.
L'explication, s'il vous plaît.
Voilà. Et ensuite, il y a l'archéologie préventive qui est menée par plusieurs opérateurs. L'opérateur national est l'INRAP, l'Institut national de la recherche archéologique préventive. Et également, il y a des sociétés privées qui font également cette archéologie préventive. Alors l'archéologie préventive, c'est lors de travaux. Alors ça peut être des travaux comme une maison individuelle jusqu'à des grands travaux comme le TGV. Donc là, il y a une archéologie qui est anticipée, c'est-à-dire qu'avant les travaux, on va évaluer le potentiel archéologique. Il y aura une phase qu'on appelle le diagnostic archéologique qui se fait sous forme de tranchées. C'est-à-dire que, par exemple, dans une parcelle où vous pensez qu'il y a de l'archéologie, les archéologues du préventif vont intervenir. Ils vont sonder la parcelle à peu près à 10% et ils vont évaluer son potentiel archéologique. Et si, effectivement, par exemple, ils trouvent une villa romaine, il va y avoir un dossier qui va être monté pour proposer une fouille préventive avec le coût, bien entendu, de ce type d'opération. Donc à ce moment-là, il y a une mise en concurrence et plusieurs opérateurs répondent. Et ensuite, il y a une fouille, mais qui se fait en amont, bien entendu, bien en amont du projet. Et là, il y a les archéologues vont documenter au maximum ce qu'ils trouvent, en sachant que derrière, les vestiges vont être détruits. Donc on va récupérer le maximum d'informations, avoir ce qu'on appelle quasiment un clone documentaire. Aujourd'hui, les relevés sont de plus en plus précis, on va faire de la photogrammétrie. Et puis, il y a bien entendu tous les objets ou autres vestiges vont être extraits. Donc on extrait effectivement le maximum de vestiges, sauf bien sûr le bâti qui malheureusement effectivement devra être détruit. Mais en tout cas, il y a cette anticipation qui permet d'avoir à la fois le résultat archéologique et en même temps que le développement d'une ville se poursuivre.
Oui, alors le mot préventif me semble avoir tout son poids parce que j'ai le souvenir d'une époque où, par exemple, pour un élu ou pour un maire, l'archéologie n'avait pas forcément bonne presse dans la mesure où on craignait toujours que les travaux ne handicape le déroulement d'un chantier ou l'immobilise ou même parfois l'annule. Alors, le mot préventif, l'archéologie préventive, c'est quelque chose qui est apparemment apparu assez récemment.
Alors, assez récemment, mais j'allais dire, ça s'ancre dans les années 70, où d'abord, il y a eu un système associatif, ce qu'on appelait l'AFON, l'Association pour les fouilles archéologiques nationales, qui s'est justement transformée ensuite dans l'INRAP, Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Et là, on parle vraiment, j'allais vous dire, d'anticipation. Et c'est une spécificité française qui fonctionne bien. C'est-à-dire que dans d'autres pays, les archéologues sont toujours vus comme des empêcheurs d'avancer.
Oui, donc il y a bien un progrès, une adaptation de ce point de vue-là.
Il y a vraiment une adaptation. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, quand on disait qu'on était archéologue, on pouvait un peu nous regarder de travers. Aujourd'hui, au contraire, je pense que c'est tout à fait bien géré et que ça fonctionne.
Oui, voilà, c'est important et ça a mis fin, ou en tout cas en partie, à cette espèce de hantise qu'avaient certains élus.
Oui, après il y a toujours une crainte, mais voilà. Mais je vous dis, aujourd'hui on n'a plus ce genre de soucis. Dès qu'il y a une ville importante où on sait qu'il va y avoir de l'archéologie, il y a déjà une carte archéologique qui est faite. Hein, on connaît le potentiel. Et puis ce système de d'abord passer par la phase de diagnostic, permet là aussi de bien anticiper et de prévoir. Alors, prévoir, c'est toujours difficile en archéologie parce qu'on a toujours des surprises. Et effectivement, vous avez une évaluation et cette évaluation, elle peut être au moment de la fouille moindre ou au contraire supérieure. Donc, vous pouvez avoir beaucoup plus de vestiges que prévu. Mais là aussi, petit à petit, les choses avancent et il y a ce qu'on appelle les tranches conditionnelles. Hein, c'est-à-dire que maintenant, de plus en plus, dans les devis sont prévus, j'allais dire l'imprévu. Voilà.
Oui, voilà. On se donne la possibilité de devoir ajouter des financements supplémentaires, par exemple.
Oui, tout à fait.
Alors justement, en matière de financement, comment ça se passe ?
Alors, en matière de financement, donc pour l'archéologie préventive, c'est l'aménageur qui paye. En sachant qu'il y a aussi un fonds national qui est prévu, pour les privés, c'est-à-dire que quelqu'un qui va construire sa villa, si effectivement il y a de l'archéologie, on ne peut pas lui demander de payer 100 000 euros ou 200 000 euros de plus pour faire les fouilles. Donc là, il y a un fonds national qui est prévu.
Qui prend en charge entièrement
Alors, je ne sais plus si c'est entièrement, mais en tout cas, quasiment la totalité, effectivement, de la fouille.
Oui, pour inciter le privé à faire véritablement ses fouilles.
Ah, de toute façon, il aura obligation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, il y a quand même une protection, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas construire s'il y a des vestiges archéologiques. Il faut d'abord faire la fouille. Donc si effectivement...
Oui, s'il y a contrainte, il faut qu'il y ait un financement qui aide.
Voilà, tout à fait. Après, typiquement, si vous avez un grand terrain qui a un diagnostic et que finalement l'archéologie n'est pas sur toute la parcelle, vous êtes plutôt invité à déplacer votre projet pour pas qu'il impacte les vestiges archéologiques. Et s'il impacte les vestiges archéologiques, il faudra faire une fouille. C'est une obligation.
Oui, et sinon, il va rester en l'état. Les fouilles ne vont peut-être pas se dérouler tout de suite ou pas du tout. Ou forcément, si sur un terrain, par exemple, vous mettez la maison à un endroit où il n'y a pas d'impact, dans ce qui aurait dû être le jardin, il y a quelque chose.
Ah ben dans ce cas-là, ça restera un jardin et vous aurez un site archéologique préservé. Vous pouvez effectivement... du moment qu'il n'y a pas de destruction de site,
c'est ça, voilà.
Voilà, c'est la destruction. Hein. Du moment qu'il n'y a pas de destruction de site, vous pouvez avoir effectivement dans votre jardin des vestiges archéologiques. Alors après, il faudra éviter de faire la piscine, hein, parce que ça ne va pas bien se passer non plus. Hein.
Oui, c'est la notion de destruction qui fait pencher la balance. Là.
Ah oui, c'est vraiment la notion de destruction. Quand vous me disiez le côté préventif, c'est qu'on évite la destruction du site.
Oui. Alors Corinne Sanchez, on va prendre là-dessus pour illustrer quelques minutes un exemple précis, c'est la nécropole qu'il y a ou qu'il y avait à côté du musée Narbovia. Donc là, ça, c'était sur la ZAC, je crois, des Berges de la Robine, donc c'était un terrain du Grand Narbonne. Dans ces cas-là, c'est le Grand Narbonne qui a financé les fouilles. C'était l'archéologie préventive.
Voilà, typiquement, les fouilles de la Robine, c'est de l'archéologie préventive. Il y a eu là aussi une phase de diagnostic. Mais un diagnostic, comme je vous disais, c'est 10% généralement de la parcelle. Alors, typiquement, pour la Robine, il y a eu effectivement beaucoup plus de sépultures que prévu. Et donc, il y a eu des financements qui ont été demandés supplémentaires. Et là, il y a l'État, la région, le Grand Narbonne, il y a eu beaucoup de financeurs qui ont participé.
Oui, oui, voilà. Et qui ont pris en charge entièrement donc, la somme. Enfin, en général, c'est un financement total.
Ah oui, oui, c'est un financement total, après, oui, oui, bien sûr.
Qui incombe au, enfin, à l'organisateur, enfin, pas l'organisateur, le propriétaire. C'est le propriétaire des lieux.
Oui, oui, c'est le propriétaire et surtout... Non, pas le propriétaire, parce que là, typiquement, vous allez avoir des constructions et vous allez avoir ensuite des propriétaires qui vont acheter.
Oui, enfin,
mais c'est l'aménageur. C'est l'aménageur.
Comme ça, oui. Oui, voilà. Oui. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé, donc, par exemple, sur cette nécropole qui a été rebouchée.
Alors, ça se passe toujours comme ça lorsqu'il y a une fouille préventive. Donc, les fouilles se déroulent. Donc, vous avez un certain nombre d'archéologues qui interviennent à différents niveaux, parce que bien entendu, il y a la fouille elle-même, mais après, il y a aussi toute la phase d'étude et ensuite la remise du rapport qui est validé. Donc voilà, il y a tout cet aspect-là qui est aussi important. Mais la finalité de la fouille préventive, c'est de rendre le terrain.
Oui, oui, oui.
Voilà, donc,
et c'est ça qui rassure finalement les aménageurs.
Bah, écoutez, c'est à eux qu'il faut le demander. Hein.
Oui. Et alors, un dernier point avant de marquer une pause, Corinne Sanchez. Quand on voit, par exemple, à la télévision, des archéologues alors fouillés avec alors, des petites truelles, mais parfois des pinceaux ou presque des brosses à dents, on est extrêmement surpris du côté méticuleux. Est-ce que c'est quelque chose que vous apprenez? Est-ce que c'est la première chose que vous apprenez quand on apprend l'archéologie?
Alors, ce que vous dites me fait un peu sourire, parce que c'est vraiment l'image qu'on a de l'archéologue, oui, avec son petit pinceau, etc. Alors qu'au départ, c'est
la pioche quand même au début, non?
C'est la pelle mécanique au début. Donc je pense que c'est la télévision qui aime bien nous montrer cette image-là, qui fait un focus là-dessus. Mais en tout cas, quand vous arrivez sur un terrain, vous avez, avant d'arriver aux vestiges archéologiques, beaucoup justement de terre qu'on appelle végétale, la terre supérieure, qu'il faut enlever à la pelle mécanique.
Ça, c'est pas à la brosse à dents. Hein.
C'est pas à la brosse à dents. Et là aussi, il y a une différence entre l'archéologie préventive et programmée. Là, c'est la question du temps. C'est-à-dire que l'archéologie préventive, il vous faut libérer le terrain à une date.
Ouais, il y a un délai prévu.
Il y a un délai pour que derrière la construction puisse se faire. De fait, l'archéologie préventive, c'est aussi une histoire de choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des choses que vous allez devoir fouiller de manière un peu plus rapide. Et de fait, on mécanise beaucoup sur les fouilles préventives, alors que sur les fouilles programmées, on va privilégier la fouille plutôt à la main, justement. Alors, à la main, quand on dit à la main, c'est à la pioche, oui, à la truelle, oui, oui, avec des outils, voilà.
Selon la tradition.
Non mécanique. Et vraiment, il y a cet aspect-là où vous avez d'abord le gros, j'allais dire, et puis petit à petit, la pioche, et vous finissez effectivement avec la truelle, et des fois même une spatule et le pinceau. Mais ça dépend aussi de vos vestiges. C'est-à-dire que si vous avez une grande salle avec des déblais à évacuer,
oui,
très clairement,
il faudra y mettre les moyens.
Voilà, vous allez pas le faire à la truelle et au pinceau. En revanche, dès que vous allez tomber sur quelque chose de plus fin, puis surtout, justement, les nécropoles, là, vous me parlez de la nécropole de la Robine, là, dès que vous fouillez des sépultures, ça prend énormément de temps, puisque il y a toute l'étude anthropologique qui doit être faite, et donc vous allez dégager tout le squelette et faire de nombreuses observations pour savoir si ce squelette était dans un linceul, était dans un sarcophage. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses aussi qui doivent être prises en compte et qui prennent beaucoup de temps et qui peuvent que se faire au pinceau. Voilà.
Alors on marque, Corinne Sanchez, une première pause, après laquelle on reviendra alors sur ce que vous nous avez dit, et notamment sur la façon dont vous procédez, mais surtout sur les endroits en Narbonnaise où vous avez l'habitude de fouiller. Tout de suite après la pause.